D'être ici ce matin. Merci pour l'invitation encore. Que Dieu puisse vous bénir. Toujours un privilège de participer à des réunions avec vous. Puis merci pour l'invitation. Et ce matin, on va regarder un message. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais bon, à la grâce de Dieu, je ne suis qu'un messager. Que son esprit puisse toucher vos cœurs. Et puis, le titre de mon message, c'est « Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre ». Et pour lancer ce message, on va regarder dans Hébreux 1 et on va lire à partir du verset 1. Et non, la meilleure moitié de notre couple n'est pas venue ce matin. On a un chien, on en prend soin. Elle aime ça. Elle aimerait vous voir aussi, mais en tout cas, pour une autre prochaine fois. Elle vous envoie ses salutations. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toute chose par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Seigneur, on te remercie pour cette parole qui élève encore une fois Jésus-Christ au-dessus de tout. C'est lui le Créateur, c'est lui le Sauveur, le Concepteur de toutes choses et nous le louons ce matin, nous le bénissons et nous lui souhaitons la bienvenue dans ce lieu par son Saint-Esprit qu'il puisse toucher les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Et tous on dit Amen. Amen. À bien des reprises, de bien des manières, Dieu a parlé. Et oui, je crois que Dieu a parlé vraiment de toutes sortes de manières. Il a parlé, si on regarde la Bible, il a parlé de façon audible à Abraham, à Noé, à Moïse, dans le buisson ardent. Il a parlé à son peuple par des signes, des prodiges. La mer a été fendue, la colonne de nuée les a accompagnés, la colonne de feu pendant la nuit. La manne a été distribuée au quotidien et cela devrait nous dire à nous aujourd'hui que Dieu va prendre soin de nous. La muraille de Jéricho s'est écroulée sous le son des louanges du peuple de Dieu et cela devrait nous rappeler que si nous louons le Seigneur de tout notre cœur, nous pouvons aller saisir des victoires. Le peuple a remporté des combats sans même lever le petit doigt, et cela devrait nous rappeler que Dieu combat pour nous. Le Fils est né de la Vierge. Et là, on devrait se rappeler que Jésus-Christ est de nature divine, qu'il est le deuxième Adam, qu'il n'est pas venu au monde avec la nature pécheresse. Conséquemment, il est Dieu en chair et que si on donne notre vie à lui, nous ne sommes non plus héritiers du premier Adam pécheur, mais du deuxième Adam, Jésus-Christ, sauvé par sa grâce. Dieu a parlé et il parle encore aujourd'hui. Dieu nous parle. Il nous parle par sa parole, il nous parle par ses serviteurs, des fois par des gens qui nous entourent, des fois par des circonstances de la vie, même si on aimerait que ça aille toujours bien, des fois la vie c'est tough, mais dans les moments tough, Dieu a un message pour nous. Par des rêves. Des fois, il nous parle par des épreuves, mais quelle que soit la façon que Dieu utilise pour nous parler, on doit cependant toujours s'assurer que cette parole que l'on entend est fidèle à sa parole. Le test de la parole. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que dans ces derniers jours, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, on a lu, c'est par son Fils qu'il nous a parlé, et c'est son Fils, bien c'est la parole. Jean 1 nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Il est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli, nous dit le verset 11. Le verset 12 nous dit, « Certains pourtant l'ont accueilli. » L'avez-vous accueilli ce matin? Ils l'ont reçu, ils ont cru en lui. Et à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Hey, si on a accepté Jésus-Christ, on n'est pas n'importe qui, n'importe qui. On est enfants de Dieu. Ce n'est pas par une puissance ou une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme que l'on devient enfant de Dieu, mais c'est Dieu, c'est de Dieu que nous sommes nés. Celui qui a la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par le Père. Donc, c'est par son Fils que Dieu nous parle. Et son Fils, c'est la parole faite chair. Et dans un monde aujourd'hui où tout est remis en question, hein, dans un monde d'Internet, dans un monde de confusion, il est important de se rappeler que peu importe la réputation, la notoriété, la cote d'écoute, le membership, la richesse d'un homme, d'une femme, d'une église, si ce qu'elle dit avoir entendu est de Dieu est contraire à la parole de Dieu, Dieu ne lui a pas parlé. Jésus, la parole et la vérité, et ce que l'on entend doit passer le test de la parole. Donc, la parole et la vérité, tout ce qui est contraire à la parole est mensonge. C'est pour ça que c'est important d'étudier, de lire la parole pour pouvoir discerner la vérité du mensonge. De bien des manières, Dieu parle, et ce matin, Dieu veut nous parler d'une autre manière, avec un outil différent. La dernière fois, je vous ai parlé avec un sac à dos. Je vous ai parlé de l'armure. Mais ce matin, je vais vous parler avec des cartes. Puis là, je vais faire une mise en garde. J'ai déjà apporté ce message-là ailleurs, puis après, on m'a fait des reproches d'avoir rentré un jeu de cartes dans l'église. Ma position, c'est que ça, c'est juste du carton qui a été façonné avec des petits bonhommes dessus, puis des couleurs, puis que ça, en soi, ça n'a aucune puissance. Par contre, je n'encourage pas à utiliser les cartes pour faire de la cartomancie. Parce que là, on peut lui donner ou invoquer une certaine puissance satanique. Mais ces cartes, en tant que telles, n'ont aucune puissance en elles-mêmes. Elles ne sont que du papier. Donc, on peut l'utiliser. Et si un jeu de cartes peut être utilisé pour lier des personnes à travers la divination, la cartomancie, moi, je crois qu'on peut s'en servir pour libérer des personnes. Combien ici dans ce lieu, vous n'êtes pas obligé de lever vos mains si vous en avez honte, moi je n'ai pas honte, combien ici dans ce lieu joue aux cartes de temps en temps? Hein? On joue aux cartes. Bon, c'est correct. Et ce matin, on va regarder ensemble le message que l'on peut communiquer avec un paquet de cartes. Là, je n'ai pas emmené le paquet, j'en ai juste une série. Ça vient, honnêtement, c'est pas pondu de mon cru. J'avais fait des recherches à un moment donné, j'étais tombé là-dessus, je l'ai raffiné, je l'ai mis à jour, je l'ai adapté. Mais un jour, un militaire dans les lieux lointains, sans Bible, était seul dans sa chambre, puis un autre lui demande « Pourquoi accordes-tu tant d'importance à ce jeu de cartes? » Il dit « J'y accorde beaucoup d'importance parce qu'à travers un simple jeu de cartes, Dieu me parle. » Premièrement, je constate que dans un jeu de cartes, il y a 52 cartes. On pourrait dire que chaque carte représente une semaine dans l'année des 52 semaines que Dieu a créées. Dans un jeu de cartes, il y a 4 suites, une pour chaque saison. Le cœur représente l'amour de Dieu. Le pic, l'épée de Dieu. Le trèfle, la trinité de Dieu. Le carreau, la croix et le sang de Jésus. Il y a la naissance, il y a la période de croissance, il y a la maturation dans les saisons, vient ensuite la mort éternelle et chaque suite contient 13 cartes qui correspondent aux 13 semaines contenues dans un trimestre. Puis quand on regarde aux cartes, et désolé si vous l'avez déjà entendu, mais ça va faire une révision, il y a un as qui représente la valeur 1. Cette carte nous rappelle qu'il y a un seul Dieu. Romains 3:30 nous dit, « Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Malachie 2:10 dit, « Nous n'avons pas tous un seul Père. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? » Jacques 2:19 nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Dans un monde de multiculturalisme, de multidiversité, de multitolérance, on ne doit pas oublier le fait qu'il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Un seul Dieu, et une seule voie pour aller à lui, et son nom c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2:5 nous dit, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » 1 Corinthiens 8:6 nous dit, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Nous sommes tout ou nous sommes tout à cause de Jésus-Christ. Un as, une personne aussi qui excelle dans un certain domaine. Et mon Dieu, il excelle dans tous les domaines. Mon Dieu, il excelle dans le salut de l'âme de ceux qui se tournent vers lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il excelle dans la restauration de ce qui est brisé. Il excelle dans la grâce qu'il nous accorde. Il excelle dans la guérison. Il excelle dans la provision. Dieu est un Dieu qui excelle et il excelle également dans la protection. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8 nous dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et j'aimerais focaliser sur ce verset, « Qui accusera encore les élus de Dieu? » Dieu lui-même les déclare justes. Et cette semaine, j'écoutais, je ne sais pas si vous le connaissez, mais si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le suivre, c'est Dr. John Lennox, un mathématicien enseignant à l'Université d'Oxford en Angleterre. Un homme brillant. Il a probablement comme 80 ans, très sharp encore. Si vous connaissez C.S. Lewis, qui est un grand homme de Dieu qui a vécu dans les années 1930, etc., qui était professeur à cette université-là, qui a écrit beaucoup de livres, John Lennox était un de ses étudiants. Et cette semaine, ce qu'il insistait, puis j'ai trouvé ça bon, je le savais, mais il m'a fait réaliser que c'est vrai que la foi chrétienne, quand on regarde à tout ce qui nous entoure, quand on regarde tous les systèmes religieux qui existent, quand on regarde tout ce qu'on fait dans notre vie, la foi chrétienne est la seule chose qui n'est pas basée sur nos mérites. Mon diplôme, je l'ai mérité. Mes promotions, je les ai méritées. Ma femme, elle mérite. Moi, je la mérite aussi. Mais le salut en Jésus-Christ, c'est sur les mérites de Jésus-Christ. Et lorsqu'on se sent condamné, parce que des fois, on se sent condamné, ça vous arrive-tu des fois vous sentir poche un petit brin? De sentir comme yoke, de sentir comme « Je suis vraiment sauvé, je suis vraiment enfant de Dieu. » Rappelez-vous ceci. Ce n'est pas par mes mérites. On peut-tu le dire ensemble? Ce n'est pas par mes mérites. Maintenant, si vous êtes marié avec votre femme, rappelez-vous que c'est par vos mérites, là. Avec Dieu, on est sauvé par la grâce, mais avec nos femmes, souvent, ou avec nos hommes, c'est par les œuvres. Vous riez pas? Moi, je la trouve drôle. Mais il faut se rappeler de ça, que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas basé sur nos mérites, mais c'est tout basé sur les mérites de Dieu. Jésus-Christ, Dieu excelle dans l'espoir qu'il nous donne. Jean 14, 2 nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et cette place-là, vous savez quoi? On ne la mérite pas, par grâce. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et enfin, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avez-vous hâte d'être toujours, constamment dans la présence de Dieu? Avoir cette relation rétablie comme c'était dans le jardin d'Éden. Une relation pure, une relation sans péché, une relation sans souffrance, sans pleurs, constamment baigné dans la présence de Dieu éternellement. Il excelle dans ce qu'il nous donne. Dans la vie, si tu perds tout ce que tu as, ne perds jamais de vue qu'avec Jésus, l'as de l'univers, celui qui excelle dans tout ce qu'il fait, tu es plus que vainqueur. Oui, tout genou fléchira devant l'as éternel. J'ai un as dans ma poche. Puis quand on joue aux cartes, si tu as un as dans tes mains, tu te sens pas mal en sûreté. En ouais, il est temps. J'ai un as dans mes mains. Puis là, on aime ça faire ça, là. Hein? Bien, dans nos vies, rappelons-nous qu'on a un as dans notre cœur. Le Dieu de l'univers qui habite en nous par son Saint-Esprit. Et lorsque des fois l'ennemi nous attaque, lorsqu'on a des tribulations, rappelons-nous que nous avons dans notre cœur l'as de l'univers. Et ça, personne ni rien ne peut le vaincre. Ensuite vient le 2. Le 2 me rappelle qu'en fait, dans ma Bible, il y a deux sections. L'Ancien et le Nouveau Testament, et la totalité de ce livre, c'est la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament sont deux livres ou un seul livre inspiré par le même esprit, l'Esprit de Dieu. Et il est quasi impossible de bien comprendre le Nouveau Testament sans bien comprendre l'Ancien Testament. Ces deux livres ne se contredisent pas, ils se complètent, ils s'harmonisent. Ils sont tous les deux utiles, indispensables pour avoir une foi chrétienne équilibrée. Car toute Écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ma volonté, à la volonté de Dieu. Deux parties de la Bible, deux alliances, une alliance par la loi de Moïse et une meilleure alliance par le sang de Christ, mais dans deux cas, c'était par la foi. Pour ceux qui sont de l'Ancien Testament, c'était dans la foi dans celui qui devait venir. Et pour nous qui sommes après Jésus, c'est dans la foi de celui qui est venu. Car tous, nous sommes sauvés par la foi. La troisième carte, c'est le 3. Le 3 qui me rappelle ce Dieu en trois personnes. La carte 3 me rappelle que nous servons un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père, le Fils puis Dany, ou Dany, le Fils puis le Saint-Esprit. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Genèse 1 nous dit au verset 26, et Dieu dit, « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, notre, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre. » Luc 3 nous dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui, sur Jésus qui était à terre. Le Père était dans le ciel, le Saint-Esprit a pris sur une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Le Fils, le Père, tête dirigeante de la Trinité, le Fils, la parole faite chair, et le Saint-Esprit, celui qui habite en nous. Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous ce matin? Le sentez-vous vous consoler, vous enseigner, vous guider, vous convaincre, vous révéler encore des précieux trésors à propos de Dieu et de sa parole? On ne pourra jamais totalement comprendre Dieu. D'où l'importance de constamment, peu importe notre nombre d'années dans le Seigneur, demander au Saint-Esprit de nous révéler plus de Dieu. Un seul Dieu en trois personnes. Puis moi, vraiment, j'ai vraiment saisi la Trinité la première fois que j'ai acheté un kit pour remplir ma cartouche d'encre d'imprimante. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé qu'avec trois couleurs, je pouvais reproduire toutes les couleurs. Vous savez ça, hein? Dans une cartouche d'encre, il y a trois couleurs. Puis avec ces couleurs-là, on peut refaire toutes les couleurs. Avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec ça, on peut reproduire toutes les couleurs. C'est ça la magie de la Trinité. Trois couleurs qui font toutes les couleurs. Trois personnes qui font un Dieu complet. Quatre, c'est la prochaine carte, me rappelle les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quatre livres, une histoire, l'histoire de Jésus de Nazareth. Et beaucoup de discussions aujourd'hui par rapport à les quatre, ils ne disent pas tout à fait la même affaire, ils disent toute la même affaire selon la façon dont ils l'ont observée. Si vous avez quatre personnes qui voient un même accident, vous allez avoir le même récit du même accident avec une perspective différente selon la position de celui qui a observé l'accident. Les évangiles sont écrits par quatre évangélistes qui racontent ce qu'ils ont vu selon la position où ils étaient lorsque l'événement s'est produit. ce n'est pas de la contradiction, c'est de la complémentarité. Les quatre évangiles se complètent. Quatre histoires qui me racontent son immaculée conception, sa vie sans péché, sa victoire sur la tentation, son habileté de changer l'eau en vin, sa capacité à multiplier la nourriture, sa victoire sur les maladies de toutes formes. Oui, Jésus-Christ a la victoire sur la maladie encore aujourd'hui. Sa victoire sur la mort. Êtes-vous content ce matin que Jésus-Christ a obtenu la victoire sur la mort? Et plus que j'avance en âge, plus que je suis fier que la mort ait été vaincue. Parce que je vois le mur se rapprocher. Puis je ne peux pas arrêter la courroie sur laquelle je suis embarqué. Elle continue d'avancer. Mais sa mort sur la croix du calvaire et sa résurrection me rappellent que je ne vais pas finir mon éternité dans un trou ni en cendres. Un jour, parce que Jésus a été ressuscité d'entre les morts, je vivrai également éternellement avec lui. Sa vie ressuscitée, son ascension vers le ciel et sa promesse de revenir de la même façon qu'il est parti sur la nuée, Jésus va revenir parce qu'il l'a promis et nous devrions être en train d'attendre après son retour. Ce qui m'amène à la prochaine carte, la 5, qui me rappelle évidemment l'histoire des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Les 5 sages étaient prêtes pour l'arrivée de l'époux qui s'en venait. Ils avaient gardé leurs lampes d'huile pleines. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. On lit ça dans Matthieu 25, verset 1. Je suis rendu au verset 4. « Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Mais comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes vont s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez-en pour vous et pour nous. Achetez-en pour vous. » Plutôt. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Comme on dirait en anglais, « Are you ready? » Êtes-vous prêts? De quel groupe de 5 est-ce que je fais partie? Moi, je veux faire partie de celles qui sont prêtes, de ceux qui sont prêts. Et comment on peut faire ça? En maintenant notre relation avec le Seigneur active. En maintenant notre relation avec lui de façon active. En ne devenant pas un étranger à notre Dieu. Et moi, je suis de la conviction que Dieu ne va jamais me rejeter maintenant que je suis son enfant. Mais moi, je pourrais un jour dire, je ne veux plus rien savoir. Laisse-moi tranquille, je veux vivre ma vie. C'est ça le danger lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Le 6 me rappelle des 6 jours que Dieu a pris pour créer le ciel et la terre. Et cette terre-là a été créée de façon, on appelle ça ex nihilo, donc en dehors de l'univers. Il est au-dessus de la création. La création, ce n'est pas une extension de Dieu. Il est au-dessus de la création. Pourquoi c'est important? Bien, beaucoup de religions, dont ce qu'on appelle le chamanisme, pratiqué principalement par des peuples autochtones, voient Dieu comme étant, ou la création comme étant une extension de Dieu. Donc, Si tout ce qui est créé est une extension de Dieu, tout est Dieu. Et ils adorent la nature autant qu'ils adorent le Créateur parce qu'ils croient que c'est tout Dieu. L'univers est Dieu. Demande à l'univers. Remercie l'univers. Hein, vous devez voir ça. J'ai demandé à l'univers. C'est exactement ce que le Nouvel Âge enseigne. Et c'est ainsi qu'ils en viennent à conclure que l'homme étant une extension de Dieu, tout est Dieu, et l'homme même est Dieu. C'est pour ça qu'on a des vaches sacrées aussi. Ben moi, si tu as faim, puis il y a une vache sacrée, tu l'as puis mange. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais nous ne sommes pas une extension de Dieu, une émanation de Dieu, mais nous avons été créés à son image pour gérer ce beau grand jardin. Et vraiment, quelqu'un m'a illustré ça un jour, j'ai saisi, il avait pris une assiette, on va dire que c'est rond, il avait dit « ça c'est l'univers ». Puis Dieu est en dehors de l'univers. Puis tout ce qui est à l'intérieur de l'univers, les étoiles, les animaux, les astres, tout ce qui est dans le... est moins que toi, parce que toi, tu es assis à la droite du Père. Donc, toi qui es ici, n'adore pas moins que toi qui es ici, mais adore celui qui est là. Et toi, tu es à sa droite. Et si tu adores là, tu adores moins que toi. C'est pour ça qu'il faut adorer Dieu et Dieu seul, parce que Dieu est au-dessus de toute chose, en dehors de l'univers. Ça éclaircit? La prochaine carte, c'est le numéro 7. Ça va jusqu'à maintenant? Et 7 me rappelle le jour du Seigneur, le jour de rafraîchissement spirituel, le septième jour qui complète la semaine. Et vraiment, c'est bon de travailler, c'est bon de se donner ça, mais il faut se reposer. Et dans un monde ultra connecté, des fois, on ne prend pas ce temps de se reposer. Et la Bible nous enseigne qu'il faut prendre une journée minimum de repos par semaine. Fais-tu du sens? Et notre société a dit non à ça. C'est pour ça que les magasins aujourd'hui sont ouverts 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Mais nous, enfants de Dieu, qui lisons la parole, savons mieux. Et si vous travaillez le dimanche, je comprends, là. Mais il faut se prendre une journée dans la semaine où est-ce qu'on se repose. Le 8 me rappelle l'histoire de la famille de Noé et de sa femme, de leurs 3 enfants et de leur femme, 8 personnes que Dieu a épargnées du déluge. Et Matthieu 24 nous avertit par rapport à ça, au verset 37, nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, aujourd'hui ils ne se marient plus, mais bon, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et moi, je veux faire partie de la minorité des 8. Puis être chrétien en 2024, c'est faire partie de la minorité. Et il ne faut pas avoir peur de faire partie de la minorité parce que c'est la minorité qui sont embarqués dans l'arche et on peut dire merci Seigneur d'avoir bâti l'arche. Quand le déluge vient dans ma vie, je peux m'y réfugier. Et quand le grand déluge viendra sur ce monde, je serai là avec toi parce que tu vas envoyer ton arche puis tu vas me faire monter vers le ciel à la rencontre du Très-Haut. Le 9 me rappelle l'histoire des 9 lépreux, c'est-à-dire 10 lépreux, 9 qui n'ont pas été remerciés le Seigneur pour avoir obtenu une guérison. Il y en a un seul qui est retourné. Les 9 autres ont continué leur chemin. Et moi, ce que ça me rappelle dans ma vie, c'est que, Danny, ne sois pas comme les 9. Sois comme le 1. Prends le temps d'être reconnaissant. Sois reconnaissant, premièrement, envers Dieu. Sois reconnaissant envers ton Église. Sois reconnaissant envers Sylvie qui a conduit la louange ce matin. Sois reconnaissant envers votre trésorier. Sois reconnaissant envers les membres du comité. Sois reconnaissant envers ceux qui ont ramassé les cannes. Faisons preuve de reconnaissance. Faisons un détour pour aller dire merci. On vit dans un monde tellement ingrat que d'un bonjour et un merci sème la joie dans les cœurs de ceux qui nous servent. Moi, ma femme a dit, j'ai une face assez dure. Je ne fais pas attention, là. Fait qu'elle me dit toujours, mets-toi un sourire dans la face. Fait qu'à cette heure, quand je vais magasiner, je fais ça. Pour adoucir mon visage. Et ce que je remarque, c'est que l'accueil des commis, elle est meilleure. C'est comme s'il y avait hâte de me servir. Pourquoi? Parce que je m'efforce, pas toujours avec succès, à mettre un sourire dans mon visage. Pour Francine, c'est naturel. Elle a souri tout le temps. Tout le monde l'a voué, puis c'est comme un aimant. Ils veulent être autour d'elle. Moi, je suis le contraire d'un aimant, c'est comme si je repoussais les gens. Fait qu'il faut que je me mette un aimant d'en face pour attirer les gens. Mais soyons reconnaissants. Ne soyons pas ingrats. Le 9 me rappelle cela. Ceux qui ne sont pas capables de dire merci. Le 10 me rappelle les 10 commandements, et je ne vais pas tous les énumérer, vous les connaissez tous, mais ils se résument, les 10 commandements, par ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. On doit se rappeler d'appliquer ça dans notre vie. Ensuite, il y a le Jack, le valet, le Jack. Le Jack, lui, il faut se rappeler qu'il est défait. Il représente le fatigant, là. Le tentateur, le tannant, là. Celui qui vient nous dire des choses pas gentilles. Là. Mais ce que la Bible nous dit, résistez et il fuira loin de vous. La victoire a été remportée contre le Jack à la croix du calvaire par le sang de Christ qui nous donne la victoire et nous sommes victorieux. Résistez et l'ennemi fuira loin de vous. Finalement, il y a la reine, ou pas finalement, avant-dernier, la reine. Il y en a peut-être d'entre vous qui disent, je souhaiterais, ce serait la dernière, mais il m'en restera un autre après. La reine, elle me rappelle la Vierge Marie. Et évidemment, on ne doit pas l'idolâtrer, je vais corriger ça tout de suite, mais effectivement, elle était vierge lorsqu'elle a reçu Jésus, mais avant qu'elle ait Jésus. Ensuite, on sait qu'elle a eu d'autres enfants, donc vous savez ce qui est arrivé avec sa virginité. Mais ce que ça me rappelle, c'est que la femme a aussi sa place dans le plan de Dieu. Il faut laisser la femme avoir sa place dans le plan de Dieu. Et aussi, elle est un exemple pour nous de laisser Dieu accomplir sa volonté à travers sa vie à elle. Et elle nous rappelle qu'elle a porté en elle l'enfant de Dieu qui a été conçu par le Saint-Esprit de façon miraculeuse. Soyons des serviteurs disponibles à ce que Dieu nous demande, comme Marie l'a été. Et finalement, il y a le roi. Et le roi me rappelle Jésus-Christ, le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le seul Seigneur. Son nom, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, parce qu'il est vraiment haut, au-dessus de tout. Oh, il est le roi. 1 Timothée 6 nous dit, « Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. » Je suis dans 1 Timothée 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi. » En présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu ressuscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, 13 nous dit, « Ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui qui les vainc, celui-ci les vainc, car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. » Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Et lorsqu'il descendra du ciel à son deuxième retour, il y aura un nom écrit sur sa cuisse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Est-ce que Jésus est votre roi ce matin? Est-ce que Jésus est le roi de votre vie? Le roi de vos pensées? Le roi dans votre famille? Le roi dans votre travail? Le roi dans vos actions? Est-ce qu'il est le roi des rois? Et la prochaine fois que vous aurez un jeu de cartes dans vos mains, vous pourrez vous rappeler qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a deux alliances, deux livres, mais une seule parole, que notre Dieu est un Dieu en trois personnes, quatre évangiles qui ne se contredisent pas, mais qui se complètent, cinq folles, cinq sages, et moi je voudrais être sage, que Dieu a créé l'univers en six jours, un jour de grand repos est à nos portes, le septième jour, parce que Dieu a créé l'univers pendant six jours, il est dans son repos et nous rentrerons bientôt dans un repos éternel. Il y a huit personnes seulement qui ont rentré à bord de l'arche et moi je veux faire partie de la minorité. Neuf, je veux être reconnaissant, je ne veux pas être comme les neuf qui n'ont pas retourné dire merci à Jésus. Dix, que ta loi soit imprégné dans mon cœur. Le valet, il est vaincu. La reine est une servante obéissante et que le roi des rois, Jésus-Christ, est le roi de mon cœur. Amen. Courbons nos têtes et prions. Et Sylvie, je ne sais pas si tu avais un dernier chant pour compléter. Et on pourra terminer là-dessus. Seigneur Jésus, ce matin, vraiment, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever car tu es au-dessus de toute chose. Seigneur, on n'a pas de mots, on n'a pas de chant, on n'a pas de soupir pour exprimer combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu es pur et puissant, combien tu es rempli d'amour, combien ton amour est grand, combien nous te devons, Seigneur, car tu as tout donné pour nous, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nos cœurs sont remplis de reconnaissance devant, Seigneur, la révélation de ta parole qui s'est rendue jusqu'à nous en 2024. Que cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse être vivante dans nos cœurs. Qu'on puisse également la partager autour de nous. Qu'on puisse être des semeurs qui répandent de la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité qui revient bientôt. Seigneur, dans ce monde de noirceur, que ta lumière puisse briller à travers nous. Et je te prie ce matin, Seigneur, pour cette Église, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse la visiter puissamment, glorieusement, toucher les cœurs, toucher les hommes, toucher les femmes, toucher les familles, les enfants. Que la présence de Dieu soit manifeste dans ce lieu. Que la provision de Dieu soit abondante dans ce lieu, Seigneur. Que les guérisons soient abondantes dans ce lieu. Que les restaurations soient abondantes dans ce lieu. Je prie pour la bénédiction de Dieu sur cette assemblée, sur cette église. Que Jésus-Christ puisse la bénir, Seigneur. Et on vient contre toute attaque de l'ennemi, toute force ténébreuse. Nous les chassons dans le nom puissant et sous l'autorité de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore dans les cœurs. On te remercie et on t'en rend grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni, sois glorifié, Seigneur.